Bonne vers l'Afrique, tous les soirs à 18h30, temps universel. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable. Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui.
Le Monde aujourd'hui, Idrissa Seludia à Washington. Bonsoir et bienvenue à l'écoute de VOA Afrique. Les grands points de l'actualité, nouvelle attaque terroriste des Chebabs somaliens près de Baidoa. Le recensement de la population annoncé par le président Kabila, qualifié d'astuce pour se cramponner au pouvoir par l'opposition. Expiration aujourd'hui du délai fixé aux rebelles Hutu rwandais des FDLR dans l'est de la RDC pour déposer les armes. Poursuite de l'opération porte-à-porte à Bandoul par les soldats à la recherche de participants à la tentative de putsch contre le président gambien Yahya Jammeh. Au Niger, renvoi au 15 janvier du procès d'Ama Amadou, jugé par contumace avec une vingtaine d'autres co-accusés, dont son épouse, pour trafic d'enfants. Et comme d'habitude, notre page économique, les sports et la musique, mais d'abord le journal. Une attaque du groupe islamiste somalien Al-Shabaab ce matin contre les troupes somaliennes a fait 6 morts et au moins 18 blessés selon les autorités. Les précisions de Timothée de Nangmaï.
Des témoins rapportent que les assaillants ont pris pour cible un poste de contrôle tenu par des soldats somaliens dans la banlieue de Baidoa, ville située à environ 245 km à l'ouest de Mogadiscio, la capitale. Une fusillade s'en est suivie, faisant des victimes dans les deux camps, soulignent les autorités. Dans un incident séparé, un agent de sécurité a été tué et 4 autres personnes ont été blessées lorsqu'un véhicule a explosé à Galkayo, dans le centre de la Somalie. 2 enseignants kenyans figureraient parmi les blessés. Le véhicule en question était utilisé par les enseignants se rendant à un collège local. Personne n'a revendiqué la responsabilité de l'attaque. En début de semaine, les États-Unis ont confirmé la mort du chef des services de renseignement d'Al-Shabaab, Tahalil Abdi Shakur, dans un raid aérien américain contre un véhicule dans la ville de Sakao. Selon le Pentagone, la mort de Tahalil aura un grand impact sur les capacités opérationnelles du groupe islamiste somalien.
En République démocratique du Congo, plusieurs développements à signaler. L'annonce surprise d'un recensement de la population en 2015 suscite les craintes de l'opposition qui y voit une stratégie du président Joseph Kabila pour retarder l'élection de 2016 et se maintenir au pouvoir. C'est à l'occasion de son discours de nouvel an que M. Kabila a annoncé ce recensement pour les élections locales, municipales et provinciales. Mais l'opposant Vital Kamerhe, ancien proche collaborateur de M. Kabila, a dit à l'AFP qu'il ne s'agit ni plus ni moins que d'une astuce trouvée pour le glissement des échéances électorales. Par ailleurs, l'ultimatum adressé aux rebelles Hutu rwandais de l'Est de la République démocratique du Congo a expiré vendredi, mais ses combattants sont loin de s'être tous rendus malgré les menaces de l'armée congolaise et des soldats de l'ONU. La MONUSCO et sa brigade d'intervention doivent maintenant s'engager dans des opérations contre les FDLR pour s'acquitter de leur mandat de neutralisation de tous les groupes armés, ont souligné cet après-midi les émissaires spéciaux internationaux de l'ONU, de l'Union africaine, de l'Union européenne, des États-Unis et de la Belgique. Et le général Joseph Zabamwita, porte-parole de l'armée rwandaise, n'évoque plus l'option de la reddition et a dit espérer une attaque contre les forces démocratiques de libération du Rwanda, dont la présence dans l'Est congolais déstabilise toute la région depuis 20 ans. D'autre part, toujours en RDC, des ONG du Sud Kivu, dans l'Est de la RDC, ont demandé aujourd'hui aux autorités congolaises de débloquer les comptes de l'hôpital de Panzi afin que les soins reprennent normalement dans cet établissement célèbre pour son aide aux femmes violées. C'est ce qu'a dit à l'AFP Descartes Malassi, président de la société locale qui s'exprimait au nom de plusieurs associations, syndicats et organisations du Sud Kivu. Mercredi à Bukavu, capitale de la province, le personnel de l'hôpital de Panzi, qui n'a pas reçu son salaire de décembre, avait manifesté devant les installations de la Direction générale des impôts pour protester contre la saisie des comptes de leur établissement le 31 octobre. Des soldats gambiens menaient vendredi à Banjul une opération porte-à-porte à la recherche de participants à l'attaque armée ayant visé le palais présidentiel il y a 4 jours en l'absence du président Yahya Jammé et ce qu'ont rapporté à l'AFP des habitants. Selon un correspondant de l'agence France-Presse, la capitale gambienne demeurait sous forte surveillance des forces de défense et de sécurité qui poursuivaient leur patrouille et conservaient leur point de contrôle installé à ses principaux accès depuis mardi, jour de l'attaque. Michel Joseph.
Des militaires en armes sont en train de faire du porte-à-porte. Ils pensent que les assaillants se cachent toujours dans la ville, a affirmé une habitante de Banjul sous couvert d'anonymat. Aucune information n'avait pu être obtenue par l'AFP de sources sécuritaires ou officielles sur cette opération qui n'a fait l'objet d'aucune annonce publique. Selon plusieurs sources militaires et diplomatiques, l'assaut était une tentative de coup d'État mise en échec par les forces gambiennes alors que le président Yahya Jammé était en visite privée à Dubaï. M. Jammé est rentré à Banjul dans la nuit de mardi à mercredi, a lui assuré qu'il ne s'agissait pas d'une tentative de coup d'État, mais d'un assaut mené par un groupe de terroristes soutenu par des puissances qu'il a refusé d'identifier. Il a cependant évoqué des dissidents basés aux États-Unis, en Allemagne et au Royaume-Uni. Depuis mardi, plusieurs dizaines de civils et de militaires ont été arrêtés en Gambie et interrogés par l'Agence nationale du renseignement, a indiqué à l'AFP une source proche de cette agence. Le régime de M. Jammé, au pouvoir depuis 20 ans, a souvent été accusé de violation des droits de l'homme, menant régulièrement des purges contre ses opposants.
Le ministre français de la Défense, Jean-Yves Le Drian, a annoncé aujourd'hui à Niamey qu'il allait commander dès cette année un système supplémentaire de drones américains Reaper, soit 3 appareils plus un système de pilotage au sol. 2 Reaper sont ici en fonctionnement. Le 3e sera opérationnel avant la fin du 1er trimestre, au mois de mars 2015, a-t-il ajouté. Pour rester au Niger, le président Mahamadou Issoufou a jugé indispensable une intervention internationale en Libye en proie aux violences et qui risque de basculer dans le chaos. Pour lui, c'est une condition préalable à la réconciliation nationale et à la mise en place d'une transition. Toujours au Niger, le juge du tribunal correctionnel de Niamey a renvoyé au 15 janvier la suite du procès d'Ahmad Amadou, l'ex-président du Parlement nigérien devenu le président opposant au président Issoufou et jugé par contumace avec une 20aine d'autres co-accusés dont son épouse. Ils sont accusés de trafic d'enfants, Jean-Roger Bion.
Le procès a été renvoyé pour des questions de procédure dès son ouverture ce matin en l'absence de l'accusé en fuite et qui crie au complot politique. Les avocats de la défense ont soulevé des objections, mettant notamment en cause la compétence du juge pénal à juger le dossier sur le fond. Après une interruption de séance, le juge a renvoyé l'affaire au vu de la qualité des pièces et des éléments de droit fournis d'après l'AFP. Issus des milieux politiques, économiques ou militaires nigériens, les prévenus sont notamment accusés de supposition d'enfants dans le cadre d'un trafic régional. Ce délit, qui consiste à attribuer la maternité d'un enfant à une femme qui ne l'a pas mise au monde, est passible de 2 à 8 ans de prison. Le palais de justice de Niamey avait été placé sous haute surveillance et tout le périmètre a été bouclé par la police qui filtrait les entrées. Pour ce procès qui a pris une dimension politique dans ce pays du Sahel, parmi les plus pauvres du monde.
La Haute Cour du Kenya a suspendu ce vendredi 2 janvier 8 clauses d'une loi antiterroriste promulguée voici 2 semaines par le président Uhuru Kenyatta. La décision fait suite aux objections soulevées par l'opposition concernant la constitutionnalité de la législation, Jacques Aristide.
Les réactions n'ont pas tardé dans le camp des détracteurs de cette nouvelle loi sur la sécurité. Pour le chef de l'opposition, Raila Odinga, le verdict marque un grand jour pour le Kenya. Le juge George Odunga a expliqué que la loi antiterrorisme présentait des risques pour les droits de l'homme. L'opposition craignait que le texte, signé par le chef de l'État kényan le 19 décembre dernier, ne transforme le pays en un régime policier avec des atteintes aux libertés fondamentales, dont celle d'expression. La loi préconise notamment de placer un suspect en détention administrative pendant 360 jours et non plus 90. Le président Kenyatta avait pourtant assuré qu'elle ne contrevenait pas à la Constitution et ne violait pas les droits. Son gouvernement continue à subir des pressions pour renforcer la sécurité au Kenya depuis que les insurgés islamistes somaliens du groupe Al-Shabaab ont massacré 67 personnes dans un centre commercial de Nairobi en septembre 2013.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les autorités italiennes ont pris le contrôle d'un cargo à la dérive transportant 450 migrants dont des femmes et des enfants et que l'équipage avait abandonné à son sort au large de la Calabre dans le sud. Les Palestiniens ont soumis aux Nations Unies les documents requis pour leur adhésion à la Cour pénale internationale, une décision qui leur donnerait la possibilité de saisir la CPI pour porter plainte contre des crimes de guerre présumés d'Israël. Les équipes de recherche de l'épave de l'avion d'Air Asia, qui s'est abîmé dimanche en mer de Java, vont utiliser des moyens de détection sous-marine pour recouvrer les corps et débris de l'appareil après que le temps se sera légèrement amélioré aujourd'hui. Et puis, les autorités indiennes disent qu'un bateau de pêche pakistanais transportant des explosifs, selon leurs soupçons, s'est fait sauter apparemment en mer d'Oman après avoir tenté d'échapper aux gardes-côtes indiens. Toutes les quatre personnes à son bord, selon le ministère indien de la Défense, ont péri dans l'explosion. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. La Minute Éco, l'actualité économique en Afrique et ailleurs avec Timothée Donangma. Bonsoir Tim.
Bonsoir Idrissa.
Économie nigériane fait les frais de la baisse des cours du pétrole brut.
Il faut dire que 80% des ressources du gouvernement nigérian proviennent du secteur pétrolier ou gazier. La baisse des cours qui se poursuit amène donc les autorités nigérianes à envisager un réexamen de la politique en vigueur et une plus grande austérité, explique Topé Fassoua, un économiste interrogé par l'agence Xinhua. Selon cet expert, les autorités nigériennes devront aussi revoir à la baisse leur projection de croissance intérieure qui s'établissait entre 6,8 et 7 %.
Les bonnes prévisions de récolte du café et du cacao affectent les cours de ces produits.
Et oui, Idrissa, une situation paradoxale. Les prix du cacao ont atteint leur plus bas niveau depuis la mi-décembre, soit 1936 livres sterling et 2908 dollars la tonne. Les perspectives de bonne récolte en Afrique de l'Ouest pourraient peser sur les cours à moyen terme, a expliqué l'analyste Jack Scoville de Price Group, interrogé par l'AFP. Côté café, les bonnes pluies au Brésil augurent de bonnes récoltes et là aussi provoquent le recul des cours.
Eh bien, les Éthiopiens, Tim, attendent impatiemment l'entrée en vigueur d'un important barrage hydroélectrique dont je te laisse prononcer le nom.
Eh oui, ce barrage de Gilgel-Gibe 3 d'un coût de 1,8 milliard de dollars et dont le projet d'exécution a connu des retards pourrait commencer à produire de l'électricité au mois de juin avec 2 turbines sur 10 et être entièrement opérationnel.
Eh bien, merci Tim pour la Minute Éco de ce mardi. Les sports avec Bagassi courant maintenant en Europe. Bagassi, l'information du jour, c'est le départ annoncé de Steven Gerrard de Liverpool.
Oui, bonsoir à tous. Ce géant du football anglais, l'icône de Liverpool, a annoncé qu'il quitterait à la fin de la saison les Reds. Ça a été la décision la plus difficile de ma vie, a indiqué dans un communiqué le milieu de terrain anglais qui a passé 16 saisons, soit toute sa carrière professionnelle à Liverpool. Il a mené les Reds aux plus hautes récompenses, hormis le titre de champion d'Angleterre, bien sûr. Ancien capitaine de l'Angleterre, 114 sélections jusqu'à sa retraite internationale après le Mondial 2014. Arrivé à l'âge de 9 ans chez les Reds, Gerrard a ajouté qu'il avait l'intention de continuer à jouer sans préciser où.
Oui, et on l'a dit ce matin, l'attaquant international Cheikh Diabaté manquera la CAN 2015 avec le Mali. Et dans un communiqué, les Girondins de Bordeaux, il joue, indique qu'à la suite de sa consultation avec des spécialistes et son propre médecin, Cheikh Diabaté s'est résolu à subir une opération devenue indispensable au bon déroulement de la suite de sa carrière. Merci beaucoup
Bagasikoura.
Merci bien.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Tsetdiya. Place au dossier du jour maintenant. En RDC, c'est aujourd'hui l'expiration de l'ultimatum de 6 mois que la SADC, la CRGL et la MONUSCO ont donné aux rebelles hutu-rwandais de Force démocratique pour la libération du Rwanda pour désarmer volontairement. Le chef de la mission onusienne a lancé vendredi sur Twitter un dernier appel au désarmement volontaire à ses combattants rwandais, dont les commanditaires sont accusés par le Rwanda d'être les auteurs du génocide rwandais de 1994. Qu'est-ce que le résultat de l'ultimatum à l'expiration de 6 mois? Qu'est-ce que sera le résultat de cet ultimatum? Est-ce que les FDLR ont volontairement désarmé et que sera-t-il fait par la suite? Eh bien, Eddy Issango a posé toutes ces questions au secrétaire exécutif de la Conférence internationale de la région des Grands Lacs, Alphonse Toumba Louaba.
Nous avons enregistré environ 300 éléments ex-combattants FDLR et à peu près 500 dépendants, donc femmes et enfants. Mais il reste au moins 1200 FDLR qui ne se sont pas rendus. Et surtout, nous avons constaté que parmi ceux qui se sont rendus, ce n'est pas le leadership militaire ni politique. C'est-à-dire, ce ne sont pas des hauts gradés et les armes qui ont été rendues, il n'y a que une, deux ou trois armes lourdes, sont des armes légères. Donc, le compte n'y est pas. C'est-à-dire, à l'expiration de l'ultimatum, tous les autres devront être considérés comme des récalcitrants et subir le traitement militaire, les actions militaires douloureuses. Il n'est plus besoin d'un autre sommet des chefs d'État, de la CRGL et de la SADC pour dire maintenant vous passez à l'action. Parce que le constat est clair, le compte n'y est pas. À partir de ce soir à minuit, donc à 24 heures, tous ceux qui ne se seront pas rendus devront subir le traitement militaire. Enfin, c'est tout.
Alphonse Toumba Louaba, secrétaire exécutif de la Conférence internationale de la région des Grands Lacs. Il était joint par Eddy Issango. Au Congo-Brazzaville, il n'est plus question que d'une simple révision de la Constitution avant la présidentielle de 2016. Le Parti congolais du travail, le PCT, du président Denis Sassou Nguesso, a appelé à la mise en place d'une nouvelle Constitution, ce qui permettrait à M. Sassou Nguesso de se représenter l'année prochaine. L'actuelle loi fondamentale l'en empêche et sa modification pourrait s'avérer problématique sur le plan juridique. Pour un décryptage, Jacques Aristide s'est entretenu avec le juriste congolais Maxon Aningba.
La révision est prévue par la Constitution elle-même, mais le changement, lui, par contre, n'est pas prévu. Du coup, n'est pas encadrée par la loi congolaise. Elle ne prévoit pas ce remplacement. Elle prévoit juste la révision. Chaque fois qu'on a changé de constitution, il y a eu un événement majeur, soit un coup d'État, un chef d'État qui décède ou qui est chassé du pouvoir. Mais dans ce cas précis, il n'y a rien de tout ça. Ça pose un problème de transition. Parce que lorsque une constitution est suspendue, ça veut dire que toutes les institutions qu'elle a prévues sont suspendus aussi. Même l'institution présidence de la République elle-même n'existe plus. J'avoue qu'il est très difficile sur le plan juridique de dire exactement comment ça va se passer parce que la Constitution n'a rien prévu. Mais nous supposons que le parti du président de la République a bien compris que la révision constitutionnelle ne permettrait pas au président de la République de briguer un troisième mandat, pour une raison simple. Il y a des articles qui sont verrouillés. En l'occurrence, l'article 85, qui limite le mandat du président à deux. La Constitution dit qu'elle ne peut pas être révisée. Il aurait fallu deux révisions. La première pour lever le verrou et la deuxième pour enfin changer l'article sur le mandat du président de la République.
Pour le porte-parole du PCT, Michel Odzoki, cette nouvelle loi fondamentale sera beaucoup plus adaptée à la réalité d'aujourd'hui et permettra au Congo-Brazza de moderniser ses institutions. N'est-il pas trop tôt pour prêter au président des intentions électoralistes ?
Je ne suis pas en politique, je ne parle pas à la place des autres, mais beaucoup pensent que c'est suspect qu'on ne pense à cette révision qu'au terme du deuxième mandat. On aurait pu en penser avant, on aurait pu penser à ça aussi après, mais cette constitution concentrait tous les pouvoirs entre les mains du président de la République. Le chef de l'État congolais a les pouvoirs d'un monarque. Supposons que nous soyons en Grande-Bretagne, on aurait pu dire que le président concentre et les pouvoirs de la reine et ceux du Premier ministre. De ce point de vue, on peut reconnaître qu'on veut faire des avancées démocratiques. Cette constitution mérite d'être revue à certains endroits.
Le juriste congolais Maixin Animba joint à Brazzaville.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui.
Revenons ce soir sur le discours de Nouvel An du président de la transition au Burkina Faso. S'adressant à ses compatriotes, Michel Kafandou a évoqué le calendrier électoral en 2015. Il a aussi parlé de l'évolution de certains dossiers judiciaires. Bagassikoura.
C'était la première fois depuis 27 ans qu'un président autre que Blaise Compaoré s'adressait au Burkinabé.
Évidemment, dans la forme, ça change avec le discours monocorde de Blaise Compaoré.
Newton Ahmed Barry est rédacteur en chef du journal L'Événement. Il pense que le nouveau président a essayé de rattraper les erreurs commises par lui et son premier ministre Isaac Zida en un mois de gestion du pouvoir d'État.
Il tente de reprendre un peu la main parce que le premier ministre Zida est justement dans le creux de la vague. Il essaie de revenir sur un somme d'erreurs. Il désavoue un tout petit peu le gouvernement par rapport à la décision de suspension des partis politiques.
Le directeur du journal Le Reporter, Bourayma Ouédraogo, lui note les annonces du président Kafando concernant les dossiers Thomas Sankara et Norbert Zongo.
Pour le premier, il propose effectivement de mettre les moyens à la disposition de la famille pour expertiser la tombe, pour s'assurer que c'est bien le président Thomas Sankara qui est dans cette tombe. Pour le deuxième dossier, notamment donc le dossier Norbert Zongo, que le dossier a été rouvert.
Pour Bourayma Ouédraogo, l'un des aspects à déplorer dans ce discours, c'est la perception du président Kafando sur les manifestations au Burkina Faso. M. Kafando a en effet menacé ceux qui ont, je cite, la critique facile et qui mangent, selon ses mots, au râtelier du régime déchu. Bourayma Ouédraogo.
Je ne sais pas de qui il parle, moi je crois que les premières personnes à éviter qu'on rentre dans cette histoire de qui mangeait dans les râteliers, de bien comparer ou pas, c'est bien le président Kafando et son premier ministre. Il a été ambassadeur pendant longtemps du président Compaoré. Il a été pendant longtemps numéro 2 de la sécurité présidentielle.
Le journaliste Newton Ahmed Barry pense que ses propos risquent de susciter beaucoup de réactions dans les jours à venir. Peut-on alors imaginer que le président s'en prenne à la société civile qui a largement contribué au départ de Blaise Compaoré? Newton Ahmed Barry.
C'est toute la question qui est là parce qu'évidemment, si c'est pour dire que ceux qui s'activent aujourd'hui contre des nominations hasardeuses et en total désaccord avec l'esprit et la lettre de la charte, notamment les ministres Digemde ou Gegemde, on ne sait même pas quel est le nom exact qu'ils portent, hein. Et puis les Adama Sagnon qui sont partis là. Si c'est contre ces gens-là, à mon avis, je ne sais pas si le président a été très bien inspiré.
Dès ce lundi, on saura la réaction des syndicats et des autres organisations de la société civile qui contestent le ministre des Transports, Moumouni Diegemde, pour moralité douteuse.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Notez notre nouvelle adresse voafrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages, photos et vidéos, et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
Au Kenya, où l'on s'attend au doublement de la population d'ici à une décennie, le gouvernement et les ONG investissent beaucoup dans le planning familial. Un reportage de Gabe Joslow, présenté par Lionel Gahima.
Le Kenya compte plus de 40 millions d'habitants et sa population ne cesse d'augmenter. Il y a une moyenne de 5 enfants par famille, bien que ce chiffre soit inférieur à celui d'il y a deux décennies. Cette explosion démographique met à rude preuve les ressources et les services disponibles dans le pays, où elle devance la croissance de l'économie. Anne Okwisa a 4 enfants. Elle vit à Nairobi, dans l'implantation de Kibera, un des secteurs les plus pauvres du Kenya. Elle discute ici au dispensaire de ses options en matière de contrôle des naissances parce qu'elle reconnaît qu'elle ne peut plus se permettre d'avoir d'autres enfants. Pour résumer, Okwisa estime qu'avec le coût de la vie qui ne cesse d'augmenter, ce ne serait pas sage d'en avoir plus. Elle précise qu'elle n'a pas le genre de boulot qui lui permettrait de joindre les deux bouts. Le planning familial devrait donc, pense-t-elle, l'aider à mieux prendre soin des enfants qu'elle a déjà. Voyant les avantages économiques du planning familial, le gouvernement et les ONG aident des dispensaires locaux afin de donner un accès plus facile et moins cher à la contraception. Walter Adoli assure que son dispensaire reçoit ainsi beaucoup de soutien. Par exemple, le gouvernement nous fournit les méthodes de planning familial et nous avons les ONG qui font du bénévolat dans, par exemple, le domaine des méthodes chirurgicales telles que la ligature de trompe et la vasectomie. Le ministère kényan de la Santé estime qu'un plus grand accès aux ressources du planning familial est essentiel à la réalisation des objectifs du pays en matière de développement économique au cours des prochaines décennies. Alex Bossiré, un obstétricien gynécologue qui a travaillé au Kenya ces 8 dernières années, pense que l'accent mis sur le planning familial est une bonne chose pour les patients eux-mêmes et pour le pays de façon générale. On ne souhaite pas une explosion démographique parce qu'on ne sera pas en mesure de fournir à cette population les emplois dont elle a besoin. Et le chômage sera un gros problème. Et on ne contrôle pas la croissance de la population par le planning familial. Pour ainsi dire, on affectera la fourniture des équipements et des services sociaux. Le docteur Bossiré dit aussi avoir remarqué que les femmes se libèrent de plus en plus des tabous sur la contraception et hésitent de moins en moins à demander les options qui s'offrent à elles. Avec les campagnes de sensibilisation du gouvernement et de certaines ONG, il y a une plus grande acceptation de cela et le fait qu'il y a maintenant un plus grand nombre de femmes qui viennent pour vous dire ouvertement « Hey, j'ai besoin de contraception ». Malgré tous ces progrès au Kenya, il ressort des statistiques gouvernementales qu'environ 50% des grossesses n'auraient pas été voulues et qu'il reste encore beaucoup à faire avant que la croissance et la population ne dévancent plus celle de l'économie.
La page musicale de Roger Muntu. Bonjour Roger.
Bonjour Idrissa.
Et on peut dire bonsoir aussi.
Mais c'est vrai, bonsoir, pourquoi pas. Pourquoi pas.
L'habitude du matin.
Mais ça c'est vrai. On peut dire bonsoir, pourquoi pas, merci. Pourquoi? Parce que, ben, je sais pas. Mais Idrissa, qui savait que Kanye West hein, et Paul McCartney pouvaient faire quelque chose ensemble? Ils ont fait une surprise hein, à leurs fans jeudi en publiant un nouveau single, Only One. Une chanson douce que lui a chanté sa maman, avec au clavier bien sûr Paul McCartney. On écoute ce morceau, Kanye West en featuring avec Paul McCartney dans Only One. I talked to God about you. He said he sent you an angel. And look at all that he gave you. Yes, for one and you got two.
Only One, je pensais plutôt à Only One, c'est parce que je vois très mal les deux travailler ensemble.
Travailler ensemble. C'est pourquoi d'ailleurs, j'ai fait ça exprès, Idrissa, je savais que tu allais me dire cette phrase-là. Je vois mal vraiment.
Et puis,
Kanye West. Hein.
Et puis Paul McCartney au clavier, en fait c'était plutôt John Lennon, et on se souvient de Imagine.
Tu vois Michel,
John Lennon.
Quand tu prends la musique, tu choisis une musique, des gens qui connaissent la musique, voilà.
Et Paul McCartney était le bassiste,
oui,
tu
c'est
vois,
vrai.
Des Beatles.
C'est vrai,
enfin,
c'est vrai.
Only
One. Only One, c'est l'essentiel.
One day, you'll be the man you always knew you could be. And if you knew how proud I was, you'd never.
never shed a tear, have a fear, no, you wouldn't do that.
Merci, merci Roger. Alors, Roger Moutou, que vous retrouverez dans le RM Show à 20h temps universel.